Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Religio, un balado du Sodrus. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Bonne écoute. Comment réviser une constitution ? Non, dans une société fragmentée. Dans cet épisode, je discute avec Dave Guénette, spécialiste du sujet, qui explore la question en utilisant le cadre théorique du fédéralisme consociatif. Dave se penche sur la manière dont les procédures de révision constitutionnelle sont structurées dans des États confrontés à d'importants clivages linguistiques, ethniques ou religieux. Le fédéralisme consociatif préconise des arrangements pour faciliter la stabilité politique, en mettant l'accent sur le rôle des élites politiques dans la recherche de consensus. À travers une approche comparative, Dave étudie les processus en Belgique, au Canada et en Suisse, confirmant que la présence d'une coalition consociative favorise le consensus. Bienvenue dans cet épisode où nous explorons les subtilités de la révision constitutionnelle dans des sociétés diverses. Dave est professeur à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke depuis 2023. Avant de se joindre à la faculté de droit, il a complété un doctorat en droit en co-tutelle à l'Université Laval et l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a également été chercheur postdoctoral à la faculté de droit de l'Université McGill pendant 3 ans. Il est par ailleurs chercheur régulier au Centre d'analyse politique, Constitution et fédéralisme, le CAP-CF, au groupe de recherche sur les sociétés plurinationales, le GRSP, et au Centre de recherche Société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke, le Sodrus. Alors bonjour Dave.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu pourrais nous définir ce qu'on entend par le terme fédéralisme consociatif et puis de quoi est-ce que l'on parle lorsqu'on évoque ce terme ?
Oui. Donc, le fédéralisme consociatif, c'est l'une des multiples matérialisations du principe fédératif, donc du fédéralisme. Donc, pour bien définir fédéralisme consociatif, on doit vraiment bien définir les deux termes qu'il compose. Donc, le fédéralisme, c'est assez bien connu, hein. Les gens ont une assez bonne idée de ce que c'est déjà. Donc, je fais rapidement. On pourrait dire, si on veut définir le fédéralisme, c'est que c'est la structuration d'un État en divisant la fonction législative, la souveraineté entre deux pôles. Et donc, si on prend l'exemple du Canada, par exemple, on va avoir un ordre de gouvernement fédéral qui a ses propres pouvoirs, ses propres compétences et qui est souverain lorsqu'il exerce ces pouvoirs-là. Mais on a également des provinces. Donc, il y a 10 provinces au Canada et les provinces ont également leur propre champ de compétences, leur propre pouvoir. Les provinces sont souveraines lorsqu'elles exercent ces pouvoirs-là. Donc, le fédéralisme, c'est, comme je disais, la structuration de l'État à travers ces deux pôles-là. Et c'est également la non-subordination des ordres de gouvernement. Et ça, c'est très important. Donc, lorsqu'ils sont dans leur champ de compétences respectifs, les provinces et le gouvernement fédéral sont pleinement souverains. Ensuite, qu'est-ce que le fédéralisme consociatif? Ben, comme je disais, c'est l'une des multiples matérialisations possibles de ce principe fédératif-là à travers les idéaux et les enseignements de ce qui est le consociationalisme. Et donc, le consociationalisme, si on veut faire simplement, là, c'est l'organisation d'un État qui est fragmenté, qui se compose de différents groupes, ethniques, linguistiques, religieux, nationaux, culturels, des groupes qui sont historiquement importants, enracinés dans la société. Et donc, on veut, dans un système consociatif, créer des relations de pouvoir entre ces groupes-là pour qu'on puisse les associer les uns les autres à l'organisation du pouvoir. Autrement dit, on veut éviter qu'un groupe qui serait plus important démographiquement ou qui aurait plus de pouvoir, par exemple, en vienne à dominer les autres. Et donc, dans un système consociatif, on veut associer ces différents groupes-là, ces différentes composantes-là de la société à l'exercice du pouvoir. Et quand on en vient à conjuguer fédéralisme et consociationalisme, on obtient théoriquement là, le fédéralisme consociatif. Et donc, on doit être face à un État fédéral avec deux pôles, là, un ordre de gouvernement central et des entités fédérées, et à travers lequel ce système fédéraliste, ce système fédéral-là, on en vient à associer les différentes composantes de la société à l'exercice du pouvoir. Grosso modo, c'est quoi? On peut définir ainsi le fédéralisme consociatif.
Alors, donc, On a une idée un peu plus précise maintenant de ce qu'on entend par fédéralisme consociatif. Tu as déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais comment est-ce que ce fédéralisme consociatif, on peut le lier de façon plus large au fédéralisme d'une manière générale?
Oui, donc moi j'aime bien répondre à cette question-ci ou réfléchir à cette question-ci en voyant vraiment comme le fédéralisme comme un grand ensemble dans lequel on peut créer des catégories. Donc le fédéralisme consociatif part du principe qu'il existe un véritable fédéralisme. Et ensuite, on peut structurer ce fédéralisme-là de plusieurs manières différentes. Donc, il y a beaucoup de littérature scientifique, par exemple, sur le fédéralisme multinational, un fédéralisme à travers lequel différentes nations qui cohabitent dans un même État en viennent à partager le pouvoir entre elles. On peut penser également au fédéralisme asymétrique, donc un fédéralisme qui permet une certaine marge de manœuvre plus grande pour certaines entités que pour d'autres. Il y a le fédéralisme par traité, qui s'applique particulièrement au cas des peuples autochtones dans une société comme le Canada, le fédéralisme personnel, territorial, etc. Et donc, le fédéralisme consociatif, c'est l'une de ces multiples déclinaisons du fédéralisme à travers laquelle on tente, encore une fois, dans une société qui est fragmentée, d'aménager des rapports de pouvoir un peu plus consensuels. Donc, plutôt que d'avoir une dynamique, je dirais, d'affrontement, d'opposition entre les différents groupes, on tente plutôt de les associer à l'exercice du pouvoir de manière à apaiser un peu les tensions politiques qui sont inhérentes dans ce type de contexte sociologique, politique là. Et donc on en vient à créer des institutions où, par exemple, on assoit à la même table les différents représentants des communautés politiques et on les amène à chercher entre eux le consensus. Donc voilà, le fédéralisme consociatif, l'une des multiples déclinaisons du phénomène fédéral.
On commence à avoir une idée un peu plus précise de ce que ça représente, donc le fédéralisme consociatif. Est-ce que tu pourrais nous donner des conditions nécessaires pour considérer un État fédéral comme étant consociatif?
La première condition, évidemment, c'est l'existence d'un fédéralisme. Donc, on doit avoir ces deux ordres de gouvernement constitutionnellement protégés, non subordonnés, etc. Et une fois qu'on a ça, ben, on peut chercher à mettre en place une véritable structure consociative. Et pour bien identifier et mettre en place cette structure consociative-là, je pense qu'il faut avoir deux niveaux d'abstraction différents. Donc, un niveau un peu plus élevé, qui est le niveau idéologique, là, qui est celui où on doit veiller, véritablement chercher à apaiser des tensions et à chercher le consensus entre les différents groupes politiques. Et donc, il y a plusieurs manières avec lesquelles la démocratie peut se matérialiser dans une société. On peut identifier deux pôles. Donc, il y a le pôle démocratie majoritaire, qui est le type de démocratie qu'on connaît bien ici au Québec et au Canada, donc où on a véritablement un affrontement entre le parti qui gouverne, le parti politique qui gouverne, et le parti politique qui est dans l'opposition, donc il y a vraiment un affrontement entre ces deux groupes-là, et on en vient à avoir une dynamique d'alternance. Donc, ultimement, le parti politique au pouvoir sera remplacé par un ou quelques partis politiques dans l'opposition, et donc les électeurs font leur choix ici. Ça, c'est la démocratie davantage majoritaire. Un système consociatif veut repousser, veut vraiment s'éloigner de ce type de dynamique de pouvoir-là, puisqu'elle peut avoir tendance, dans une société fragmentée, à accentuer les tensions. Et donc, le premier élément, le premier niveau d'abstraction, je dirais, c'est vraiment celui de chercher à éviter ce type d'opposition entre les principaux partis d'une société pour véritablement davantage chercher le consensus. On est conscient dans une société fragmentée qu'il y aura des défis et on veut créer des dynamiques, des rapports de force, des rapports de pouvoir où les parties prenantes à la société pourront mieux dialoguer entre elles, chercher le consensus, le compromis plutôt que l'affrontement. Ça, c'est vraiment le niveau un peu plus élevé d'abstraction. Maintenant, la question peut être, mais on fait ça comment? Comment est-ce que, en pratique, là, quels sont les piliers, les fondements d'une véritable démocratie consociative? Ben, la théorie en a identifié, ou les théoriciens du consociationnalisme en ont identifié quatre principaux. Le premier, il est inhérent à ce que je viens de dire, donc c'est vraiment la création d'une grande coalition politique. plutôt que d'avoir une société qui est gouvernée par un parti politique qui remporte des élections, qui forme un gouvernement majoritaire et donc qui peut mettre de l'avant son agenda politique un peu à la manière qui lui convient le mieux. On veut associer un plus grand nombre de partis politiques à l'exercice de la fonction gouvernementale, de manière à ce que chacun des groupes importants soit représenté dans la fonction exécutive et ait son mot à dire dans la mise en place des politiques publiques importantes, dans les orientations gouvernementales, etc. C'est vraiment le pilier fondamental. Pour avoir une véritable démocratie consociative, on doit avoir ceci. Ensuite, trois autres piliers, assez simples et intuitifs, je pense, si on réfléchit à comment est-ce qu'on peut structurer les institutions d'une société fragmentée, donc la représentation proportionnelle. Si on est dans une société qui se compose de différents groupes, on doit être en mesure d'offrir une représentation minimalement proportionnelle à chacun de ces groupes. Ensuite, on doit également avoir un droit de veto. Un droit de veto pour les principaux groupes lorsqu'ils sont confrontés à une situation où une décision importante pour l'ensemble de la société serait de nature à remettre en cause certains de leurs droits fondamentaux, certains de leurs des principaux éléments qui vont les protéger dans le système consociatif. Et enfin, dernier élément, dernier pilier de la théorie consociative, l'autonomie segmentale. Donc, on doit accorder à chacun des groupes une certaine marge d'autonomie qui va leur permettre d'administrer eux-mêmes, de manière autonome, les éléments les plus importants de leur vie politique, je dirais, comme groupe distinct dans une société qui, elle, se compose de plusieurs groupes.
Mais alors, au regard là, de toutes les conditions que tu viens de nous étayer, est-ce qu'on peut considérer le Canada comme un État consociatif?
Oui, c'est une très bonne question et j'ai dû y répondre à quelques moments dans les dernières années, puisque moi, le consociationnalisme, c'est un prisme théorique que j'ai beaucoup utilisé dans mes travaux et parfois pour interpréter certains enjeux, certains phénomènes, certaines institutions au Canada. Et donc, la réponse toute simple à votre question, c'est non. Le Canada n'est pas une démocratie consociative et même si on revient aux quatre piliers que je vous ai mentionnés dans les dernières minutes, on constate assez rapidement que le principal pilier, là, cette grande coalition gouvernementale qui gère un peu la société, qui prévoit des politiques publiques, elle n'est pas mise en place. On a vraiment, comme je disais un peu plus tôt, un système d'affrontement avec un parti politique qui prend le pouvoir et une opposition qui lui fait la vie dure, si on veut, au Parlement, et ultimement une alternance entre ces deux partis politiques-là. Par contre, ce que j'ai bien aimé faire dans mes travaux récents, dans les dernières années, ce que j'ai fait notamment dans ma thèse de doctorat, c'est non pas interpréter ou chercher à analyser l'ensemble d'une société comme le Canada pour démontrer qu'elle serait ou ne serait pas une démocratie consociative, mais vraiment cibler un phénomène, une institution, un processus, pour chercher à voir si ce phénomène précis-là ou cette institution précise-là peut être, même dans une démocratie qui n'est pas consociative, mais interprétée de manière intéressante avec le prisme du consociationnalisme. Et donc, je vous donne un exemple rapidement, c'est celui de la révision constitutionnelle sur laquelle j'ai travaillé dans ma thèse de doctorat. Lorsqu'on modifie la constitution d'une société, et surtout d'une société fragmentée, on doit chercher le consensus. On doit chercher quelles seraient les modifications qui seraient de nature à permettre à l'ensemble des groupes qui forment la société d'être en accord avec une modification importante du système constitutionnel. Eh bien, la recherche du consensus, c'est ce qui est au cœur de la démocratie consociative. Et donc, ce que j'ai fait, notamment dans ma thèse de doctorat, j'ai voulu comparer comment trois sociétés fragmentées différentes, la Belgique, le Canada et la Suisse, en viennent à modifier leur constitution de manière à tenter d'obtenir un certain consensus entre les groupes qui composent ces sociétés-là. Trois sociétés très différentes. La Belgique est un bon exemple de démocratie consociative. La Suisse emprunte plusieurs des mécanismes de la démocratie de consensus. Et comme je le disais, le Canada est davantage une démocratie majoritaire. Mais lorsqu'on cible un phénomène, une institution, un processus, on peut vraiment en venir à avoir des conclusions, je pense, intéressantes et porteuses pour s'intéresser à ces états-là. Donc, si je réponds de manière un peu plus directe et détaillée à votre question, non, le Canada n'est pas un État consociatif, ce qui n'empêche tout de même pas de s'intéresser à certains phénomènes, certaines matérialisations du pouvoir politique dans l'État canadien pour les interpréter à travers un prisme qui, lui, est consociatif.
Alors, tu as commencé déjà à nous donner des exemples là de pays consociatifs. Il existe aussi des pays dont consociatifs confessionnels. Est-ce que déjà tu pourrais nous donner des exemples de pays qui ont réussi ou qui font face à des défis en adoptant ce consociativisme confessionnel? Est-ce que tu peux aussi nous le définir et son fonctionnement dans le contexte politique de ces pays?
Oui, donc déjà, votre question amène à une première clarification de mon côté. C'est vraiment, on peut avoir un système, on peut avoir un fédéralisme consociatif, mais on peut aussi avoir un système qui va être consociatif sans être du véritable fédéralisme. Et donc, plusieurs des sociétés qui ont adopté le consociationalisme ont pu l'adopter sans être elles-mêmes des États fédéraux. Et même, on retrouve bien souvent des structures consociatives dans des régions d'États indépendants. Et donc, je réponds à votre question en deux volets. Premier volet, des exemples de démocratie consociative de nature confessionnelle. On peut penser évidemment au Liban. Le Liban est un bon exemple de démocratie consociative qui prend ses fondements véritablement sur des bases confessionnelles. On peut penser également à un cas qui est assez bien connu, qui est celui de l'Irlande du Nord. Donc, l'Irlande du Nord n'est pas un État indépendant, c'est une partie du Royaume-Uni, c'est l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, mais à l'intérieur de cette région-là, de cette nation constitutive-là, on a mis en place un véritable système consociatif entre les catholiques et les protestants, de manière à leur permettre de partager le pouvoir entre eux pour apaiser justement les conflits auxquels on assistait dans la deuxième moitié du 20e siècle dans cette région-là. Donc, différents exemples de systèmes qui ont adopté une structure consociative sur des bases confessionnelles. Deuxième volet de ma réponse, donc qu'est-ce que serait le consociationnalisme confessionnel, ou ce qu'on appelle parfois du confessionnalisme? C'est simplement la mise en place d'une structure consociative qui justement va prendre forme avec des clivages de la société qui, eux, sont de nature religieuse. Et donc, je le disais un peu plus tôt, pour qu'il y ait une structure consociative, pour qu'on soit face à un État qui peut intégrer les mécanismes du consociationnalisme, on doit être face à une société fragmentée. Cette fragmentation-là peut être de différentes natures. Peut-être de nature linguistique, comme c'est le cas en Belgique, de nature nationale, comme c'est également le cas en Belgique, comme c'est le cas au Canada, même si on n'est pas face à une structure consociative. Les clivages peuvent être de nature ethnique, peuvent être de nature religieuse, culturelle. Et donc, le confessionnalisme ou le consociationnalisme confessionnel, c'est simplement la mise en place d'un régime consociatif dans un État ou dans une partie d'un État où les conflits ou les clivages sont de nature religieuse.
Alors, si on continue avec ces exemples-là du Liban et de l'Irlande du Nord, quels seraient les avantages et les inconvénients du consociativisme confessionnel qu'il peut y avoir dans ces deux pays, notamment en termes de stabilité politique, de représentation des communautés, si on se base, par exemple, sur l'État libanais?
Oui, tout à fait. En fait, je voudrais que les avantages et les inconvénients desquels je vais vous parler dans les prochaines minutes transcendent l'ensemble des structures consociatives. Donc, qu'elles soient de nature confessionnelle ou qu'elles se basent sur d'autres types de clivages, on va remarquer bien souvent les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Le premier avantage, probablement le plus important, c'est véritablement celui d'apaiser les tensions. Donc, le consociationnalisme arrive bien souvent en réponse à un enjeu, à un problème, qui est celui d'être face à un État, face à une société, où il y a des conflits qui peuvent être de nature politique, mais qui peuvent aussi être plus graves pour une société. Ils peuvent être de nature violente, de nature armée. On peut être face à un État, par exemple, dans lequel il y a une guerre civile. Et donc, le consociationnalisme, confessionnel ou non confessionnel, arrive un peu en réponse à ces conflits-là. Et son principal intérêt, son principal avantage, c'est vraiment celui d'apaiser les conflits. En offrant, par exemple, une représentation, une voix au chapitre à l'ensemble des communautés importantes qui composent cet État-là ou cette société-là, on vise à souhaiter à ce que l'ensemble des parties prenantes je te vois comme un acteur politique reconnu, important, qui pourrait éventuellement et ultimement avoir une influence sur où est-ce que la société s'en va, sur les programmes politiques, sur les politiques publiques, etc. Et donc, le principal avantage, c'est véritablement celui-ci. Les inconvénients, eux, sont nombreux. Ils arrivent un peu en réponse à cet avantage-là, d'apaiser les conflits politiques. Et c'est bien souvent, on va constater, lorsqu'on met en place un système consociatif, une certaine instabilité politique et même bien souvent un certain immobilisme. Et donc, c'est-à-dire qu'on remplace le conflit qui peut être violent, qui peut être un conflit armé, par un conflit politique. Puisqu'on met en place des institutions où chacun des groupes importants de la société sont appelés à collaborer, à chercher ensemble le consensus, le compromis pour les décisions importantes, ben on en vient bien souvent à des impasses. On le constate par exemple en Irlande du Nord où il est bien souvent très difficile de former un gouvernement puisque le gouvernement doit être formé en représentant chacune des formations politiques protestantes ou catholiques qui sont représentés au Parlement nord-irlandais, ça devient très difficile de former un gouvernement où on va pouvoir avoir un programme politique cohérent et on va pouvoir mettre de l'avant des réformes, par exemple. On l'a constaté également en Belgique, dans les 12 dernières années en Belgique, à la suite de 2 élections fédérales, on a eu besoin de plus d'une année et demie pour s'entendre sur la formation du gouvernement. Évidemment, quand on est dans un système politique comme le Québec, le Canada, c'est assez difficile d'imaginer ça puisque on sait habituellement, le soir même des élections, qui formera le prochain gouvernement. En Belgique, ou dans les systèmes consociatifs, où on cherche à avoir ces grandes coalitions politiques-là, on est face à un système qui est bien différent, puisque il y a plusieurs partis politiques, donc il y a une fragmentation des partis politiques qui sont représentés, et à la suite d'une élection, ben, il n'y a aucun parti qui est majoritaire, et donc les partis qui sont parvenus à faire élire des parlementaires doivent ensuite tenter entre eux de trouver quel arrangement, quelle coalition serait possible pour former un nouveau gouvernement, lequel aurait une politique cohérente. Et ça, comme je disais, en Belgique, à suite des 3 dernières élections, ben à 2 reprises, ça a pris plus d'une année et demie. Donc, on a une élection et on doit attendre 18 mois pour savoir qui sera notre prochain premier ministre, notre prochaine première ministre, qui seront les ministres, qui seront les partis politiques représentés au pouvoir. Et donc, on peut aisément voir ici le sort d'immobilisme que ça crée, le fait que c'est difficile de mettre de l'avant des réformes. Donc, comme je disais, on remplace un peu un conflit qui peut être de nature violente par un conflit qui est politique. Plutôt que de s'affronter sur le terrain, on va s'affronter entre les différents groupes dans l'arène politique. Et un autre inconvénient des systèmes consociatifs, c'est vraiment celui de cristalliser les identités. Et donc, pour jouer un rôle dans l'arène politique, dans un système consociatif, on doit appartenir à l'une des communautés qui est formellement reconnue. Donc, si on prend, par exemple, l'Irlande du Nord, les principaux acteurs du système consociatif sont les catholiques et les protestants. Et donc, si vous voulez jouer un rôle politique, bien, vous devez bien souvent vous identifier à l'un de ces deux groupes-là. Et donc, vous pourrez être élu ou vous pourrez, par exemple, devenir un ministre en fonction de votre appartenance à l'un de ces deux groupes-là ou encore avoir un poste important dans la fonction publique. Puisqu'on veut qu'il y ait une véritable représentation des différentes communautés, bien, on doit savoir à quelle communauté vous appartenez pour pouvoir savoir si on respecte ces différents quotas-là et ces différentes représentations-là. Ce qui mène peut-être à un dernier inconvénient duquel je vous parlerai aujourd'hui, c'est que dans un système consociatif, on en vient, en raison du fait qu'on cristallise, qu'on force vraiment les citoyennes et les citoyens à appartenir à l'un des groupes qui, lui, participent au système consociatif, on néglige ce que la littérature scientifique appelle les autres, en anglais, the others. Il y aura beaucoup de littérature là-dessus. Bien, c'est le fait que si vous êtes, par exemple, vous habitez en Irlande du Nord, vous ne vous identifiez ni au groupe religieux protestant, ni au groupe religieux catholique, eh bien, comment est-ce que vous pouvez participer au système? Comment est-ce que vous pouvez en venir, par exemple, à être élu au Parlement? Et on trouve dans les systèmes consociatifs des réponses à ces problématiques-là, mais ce sont de véritables problématiques. Comment est-ce qu'on va en venir à représenter, par exemple, les nouveaux arrivants dans un système comme celui-ci? Ou comment, si on est face à un consociationnalisme confessionnel. Comment est-ce qu'on en vient à représenter les intérêts des personnes qui n'appartiennent pas à aucune de ces deux principales religions-là ou, par exemple, seraient athées? Ça, c'est un véritable problème. Donc, parfois, on crée de nouvelles catégories, cette catégorie-là des autres, mais c'est une catégorie qui est bien hétérogène, évidemment.
Donc on comprend mieux là maintenant les contours qu'un état consociatif peut avoir. On comprend mieux là cette forme d'immobilisme, cette cristallisation là que tu viens de décrire. Si on y va de façon encore plus concrète dans le fonctionnement d'un état consociatif, notamment un état consociatif confessionnel, comment est-ce que ça va fonctionner concrètement dans l'organisation politique après de l'État? Comment est-ce que ce principe d'organisation politique peut influencer les décisions gouvernementales, les politiques publiques qui seront mises en place au sein d'un État consociatif confessionnel?
Oui, dans ce cas-ci, on revient, je dirais, un peu du côté des avantages. Donc, lorsque ça fonctionne, lorsque la structure consociative parvient à véritablement produire les effets escomptés, bien, c'est qu'on va avoir des décisions gouvernementales, mais également des administrations publiques, des orientations politiques et des politiques publiques qui vont mieux prendre en compte les souhaits, les désirs, les aspirations et les besoins de toutes et de tous. Et comment est-ce qu'on en vient à ça? Bien, enfin, encore une fois, on se remet dans le contexte d'une démocratie consociative où au gouvernement central, les principales communautés politiques du pays sont représentées. Et donc, on doit prendre des décisions par consensus. Et si vous représentez l'une de ces deux ou trois principales communautés du pays-là, vous allez vouloir bloquer, vous opposer à une politique publique ou à une orientation gouvernementale qui ira à l'encontre des membres de votre communauté. Et donc, on en vient à négocier des programmes politiques à l'intérieur, oui, du gouvernement, mais également, comme je disais, dans la mise en application de ces politiques publiques-là, on en vient à avoir des politiques publiques et des orientations qui sont plus en phase avec les besoins et les aspirations de toutes les communautés et également qui n'ont pas pour effet de freiner, de brusquer ou de violer, par exemple, les droits de certaines communautés. Pourquoi? Ben parce que tous participent à la délibération politique. Tous ont voix au chapitre lorsqu'on élabore ces politiques-là et lorsqu'on vient à les mettre en application. Et donc, encore une fois, lorsque le système fonctionne, oui, il peut y avoir un certain immobilisme, les décisions peuvent être lentes, les processus peuvent être lourds, mais lorsque ça fonctionne, l'une des principales conséquences, c'est qu'on va avoir des politiques publiques et des orientations gouvernementales qui sont susceptibles d'être acceptées par l'ensemble des groupes, par l'ensemble des communautés. Et ça a pour effet, donc on y va un peu par étage, là, ça a pour effet de continuer à apaiser les tensions plutôt que d'accentuer les tensions entre les groupes, puisque chaque groupe, chaque communauté peuvent en venir à être satisfait du gouvernement en place. Sans être 100% satisfait, il peut y avoir quand même un certain niveau de satisfaction, eh bien on en vient à poursuivre l'apaisement des tensions dans une société fragmentée.
Si on revient sur le principe du fédéralisme, finalement, en quoi est-ce que le fédéralisme va différer d'autres modèles d'organisation de l'État? Puis concrètement, comment est-ce que ça vient affecter la gestion des différences culturelles et puis confessionnelles au sein d'un pays qui suit ce modèle fédéraliste?
Oui, la question est intéressante puisque elle amène à plusieurs distinctions ou à plusieurs éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion, c'est peut-être de dire que fédéralisme et consociationnalisme, comme on l'a vu un peu plus tôt, peuvent se conjuguer, mais on doit veiller à ne pas les confondre. Donc, ce sont deux modèles différents de gestion de la diversité sociétale dans des sociétés qui sont fragmentées, par exemple. Et donc, on peut les conjuguer, on doit veiller à ne pas les confondre. Et qu'est-ce qui va les distinguer? Ben, c'est justement les principaux piliers desquels j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, le fédéralisme divise la fonction législative Alors que le consociationnalisme, pour faire très simple, prévoit des mécanismes de partage du pouvoir entre les différentes communautés dans une société fragmentée. Lorsqu'on parle précisément du fédéralisme, donc le fédéralisme, on peut l'opposer. Quel serait l'opposé naturel du fédéralisme? Mais c'est l'État unitaire. C'est un État dans lequel on n'a qu'un seul gouvernement, un gouvernement central situé dans la capitale, un seul parlement, et où donc l'ensemble du pouvoir, l'ensemble de la souveraineté est concentré entre les mains d'un seul groupe d'institutions politiques. Et donc, comment est-ce que, pour reformuler un peu votre question, comment est-ce que le fédéralisme peut participer à une meilleure gestion de la diversité sociétale, religieuse dans une société? Eh bien, c'est justement en offrant différents espaces d'autonomie et d'autogouvernement dans une même société. Si on prend par exemple le Canada, 1867, donc on crée une nouvelle société, un nouveau dominion à l'époque qui allait éventuellement devenir un État indépendant. Eh bien, il y a une tension en 1867 entre les tenants d'une union fédérale qui l'ont finalement emportée et les tenants d'une union législative qu'on traduirait aujourd'hui par État unitaire et donc dans lequel il y aurait un seul centre de souveraineté dans l'État. Eh bien, la raison pour laquelle l'Union fédérale a finalement prévalu, c'était justement en raison de la présence dans le futur Dominion, dans le futur État, d'une minorité fort importante, concentrée dans ce qui allait devenir le Québec, de citoyens, de citoyennes qui sont francophones et qui sont catholiques. Et donc, on crée dans un pays qui allait devenir éventuellement beaucoup plus grand, une situation où une minorité à l'échelle étatique peut néanmoins constituer une majorité dans une entité fédérée. Et ça, c'est évidemment pas du tout négligeable. Si on regarde les pouvoirs que détiennent les provinces au Canada, le Canada est une fédération très décentralisée, et donc les provinces, là, et le Québec étant une province, au Canada, les provinces ont des pouvoirs extrêmement grands en matière de législation sur la santé, sur l'éducation, sur l'immigration et sur tout plein d'autres enjeux qui sont très près des citoyens et des citoyennes. Et donc, on crée dans une société où il peut y avoir différents groupes minoritaires et lorsqu'on fait de cette société-là une fédération, on crée des espaces d'autonomie assez importants pour que des minorités à l'échelle de l'État puissent constituer des majorités à certains endroits et on donne à ces groupes-là, à travers l'Union fédérale, à travers une constitution qui va protéger leur pouvoir, leurs compétences, on leur donne les leviers politiques, juridiques et constitutionnels pour qu'ils puissent consolider ce qui fait d'eux des groupes distincts dans une société un peu plus grande et un peu plus englobante.
Alors, sans vouloir enfermer le questionnement dans une binarité, là, mais est-ce qu'on pourrait dire que le fédéralisme renforce ou entrave la cohésion nationale? Là, si on continue sur l'exemple de l'État canadien, est-ce que ce modèle d'organisation de l'État, l'État fédéral, vient renforcer ou entraver cette cohésion-là?
C'est une bonne question et dans la littérature, là, on retrouve vraiment des tenants des deux positions. Et donc, par exemple, on va avoir des gens qui vont défendre l'idée selon laquelle, dans une société, et a fortiori lorsque celle-ci est fédérale, si on donne trop d'autonomie aux groupes minoritaires, ben on va, par exemple, accentuer leur désir d'autonomie, ce qui peut mener à éventuellement des mouvements sécessionnistes. Ça, c'est une extrémité du spectre, si on veut, et complètement à l'autre extrémité du spectre, on va retrouver des gens qui défendent la position inverse. C'est-à-dire qu'ils vont dire que lorsqu'un groupe minoritaire dans une société, lorsqu'une nation minoritaire dans une société ou dans un État souverain obtient plusieurs mécanismes d'autonomie gouvernementale, obtient par exemple une reconnaissance de la part de la société dans laquelle elle évolue, obtient de meilleures ressources financières pour administrer ses propres compétences, ben on va justement apaiser ces tensions politiques-là et on va réduire le désir de sécession. Et on va réduire la possibilité qu'il y ait un mouvement indépendantiste dans cette société-là. Si on regarde l'histoire récente, là, de manière comparative, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, on prend par exemple le cas de la Catalogne. Évidemment, ce sont tous des exemples. Donc, on peut trouver des exemples qui vont appuyer chacune de ces deux de ces deux positions-là. Il y a également des exemples qui vont être plus tempérés, hein, je le disais, c'est un peu un spectre. Donc, à quelque part sur le spectre, on peut avoir des exemples plus neutres ou plus nuancés. Mais si on prend par exemple l'exemple assez récent de la Catalogne, donc la Catalogne en Espagne demande plus d'autonomie politique, en obtient à travers un nouveau statut d'autonomie, donc dans les années 2000. Et ensuite, il y a toute une série d'événements, donc il y a une décision du tribunal constitutionnel espagnol qui va invalider certains des éléments du nouveau statut d'autonomie, ce qui va rendre la Catalogne assez insatisfaite face au cadre constitutionnel et institutionnel dans lequel elle évolue. La Catalogne, qui est une région riche en Espagne, demande également d'avoir davantage de ressources financières, qu'elle puisse conserver davantage de ressources financières, et on refuse cette demande-là. Et ultimement, à quoi est-ce que tout ça mène? Ben, à l'histoire qui est connue, une dizaine d'années plus tard, un référendum qui porte sur l'indépendance de la Catalogne, qui est réprimé par les autorités espagnoles. Et donc, on peut constater en Espagne que lorsqu'un groupe minoritaire qui, à la base, n'avait pas un mouvement indépendantiste très important, lorsqu'on a nié ces demandes-là, lorsqu'on a refusé de lui donner davantage d'autonomie et davantage de ressources financières, bien, on a fait croître le sentiment indépendantiste dans cette société-là. On peut également faire un parallèle ou aborder rapidement le cas de l'Écosse, où l'Écosse tient un référendum d'autodétermination en 2014. Ultimement, le référendum est gagné par les personnes qui souhaitent demeurer au Royaume-Uni. Et ensuite, il y a un référendum sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour lequel les Écossais sont majoritairement opposés, mais pour lequel l'ensemble du Royaume-Uni, lui, est favorable. Et donc, il y a depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, bien, il y a eu une croissance dans les appuis à l'indépendance en Écosse, justement parce que on a un peu refusé, dans tout le processus du Brexit, d'attribuer une plus grande économie à l'Écosse, ce qu'elle demandait. Elle aurait voulu avoir un arrangement particulier. Et donc, bref, ce qu'on peut constater, c'est qu'à certains moments, dans des sociétés fédérales ou quasi-fédérales, si on pense à l'Espagne ou au Royaume-Uni, lorsqu'on refuse des demandes institutionnelles importantes des entités fédérées ou des entités constituantes, eh bien, parfois, l'appui à l'indépendance de ces régions-là augmente. Ce qui, à mon sens, est un bon indicatif, à tout le moins, que dans une société où on retrouve différents groupes, eh bien, lorsqu'on attribue un certain degré d'autonomie, le Québec en est un bon exemple, beaucoup d'autonomie au Canada, lorsqu'on lui donne les niveaux d'autonomie suffisants pour qu'il puisse continuer à vivre comme société distincte ou comme nation à l'intérieur d'une société plus grande, d'un État indépendant plus grand, bien, on peut en venir à apaiser les tensions politiques qui peuvent être inhérentes à ce type de contexte-là.
Et enfin, j'aurais peut-être une dernière question pour compléter un peu notre réflexion. Quand vient le temps de modifier une constitution, en quoi est-ce que le cadre que propose le fédéralisme consociatif peut être pertinent pour ce cas-là de modification?
Donc, dans une société fragmentée, la Constitution, c'est un peu le contrat, hein. C'est le contrat que se donne, le pacte que se donnent les différentes communautés. Et dans ce contrat-là, ben, on va inclure tout plein de mécanismes ou d'institutions où on va et de compétences également où on va attribuer à certains groupes, à certaines communautés, à certaines entités fédérées, des pouvoirs spécifiques. Et donc, ce contrat-là, il a une nature supralégislative. Il est protégé par une procédure de modification qui est bien souvent très complexe, très exigeante. Eh bien, lorsque vient le temps de modifier ce contrat-là, et on peut vouloir le modifier, hein, les autorités autant fédérales que fédérées peuvent souhaiter une modification du contrat, une modification du pacte qui les unit, lorsque vient le temps de modifier le contrat, il y a toujours un risque, évidemment, qu'on puisse élargir ou rétrécir les compétences ou les pouvoirs de l'un des deux ordres de gouvernement. Et donc, c'est fondamental, et c'est l'une des conditions d'existence du fédéralisme, c'est fondamental que les deux ordres de gouvernement participent à cet exercice de modification constitutionnelle. Et donc, le fédéralisme consociatif, ce qu'il nous permet comme prisme d'analyse intéressant lorsque vient le temps de modifier la constitution d'une société fragmentée, c'est justement de voir comment est-ce qu'un modèle théorique qui vise l'atteinte de consensus entre différentes communautés peut servir pour interpréter, analyser, parfois critiquer la procédure de modification d'une constitution qui, elle, devrait également chercher autant que possible à susciter le consensus et le compromis entre les groupes. C'est intéressant également à cet effet-là, c'est de voir qu'il y a plusieurs mécanismes possibles. Oui, on peut chercher à avoir des grands compromis, des grands consensus entre l'ensemble des parties prenantes d'une société, mais on peut aussi chercher à obtenir ce type d'arrangement-là à travers des arrangements asymétriques. Et en ce sens-là, le Canada, qui, on le disait un peu plus tôt, n'est pas une démocratie consociative, a néanmoins des mécanismes consociatifs extrêmement intéressants dans sa procédure de modification constitutionnelle. Je vous en nomme très rapidement deux, et ce sont des mécanismes de nature asymétrique. Il y a, lorsqu'on modifie la Constitution, par exemple, pour, et ça s'est jamais produit depuis 1982, mais c'est néanmoins une possibilité, lorsqu'on voudrait, par exemple, prendre une compétence provinciale et la transférer vers le fédéral, donc pour en faire une compétence fédérale, il existe un mécanisme qu'on appelle le droit de retrait. Et donc, disons que les neuf provinces anglophones seraient d'accord pour transférer une compétence provinciale vers le fédéral, eh bien, le Québec pourrait non pas bloquer cette modification-là, mais pourrait se retirer de son application. Ce qui est un mécanisme asymétrique très intéressant, puisque l'ensemble des partenaires peuvent se satisfaire d'un arrangement comme celui-ci. Les neuf provinces anglophones qui pourraient souhaiter transférer une compétence, et c'est hypothétique évidemment tout ça, mais ça illustre quand même bien comment ça se passe, les neuf provinces anglophones et le fédéral qui pourraient tous être d'accord pour transférer une compétence provinciale vers le fédéral pourraient être satisfaits de ce résultat-là. Et le Québec, qui s'opposerait à cette modification-là, ben, pourrait conserver la compétence fédérale qui a par ailleurs, dans les autres provinces, été transférée vers le fédéral. Et donc ici, on a vraiment un mécanisme qui peut en venir à satisfaire l'ensemble des parties à la société. Deuxième mécanisme, très rapidement, c'est la procédure de modification des arrangements spéciaux, ce qui fait en sorte que lorsqu'on veut modifier pour une province ou quelques provinces seulement un enjeu qui n'est pas de nature pan-canadienne, mais qui s'appliquerait uniquement dans une ou quelques provinces, eh bien, on peut le faire avec l'accord uniquement de cette ou de ces quelques provinces-là, ce qui a pour effet d'éviter une espèce de grand débat où tout le monde aurait son mot à dire sur des enjeux de nature plus locale. Et un bon exemple de ça, c'est justement quand, au Québec, on a voulu déconfessionnaliser les commissions scolaires. Donc, on a voulu le faire uniquement à l'échelle du Québec. On a voulu avoir un système distinct. Eh bien, on a pu le faire avec l'accord des deux chambres du Parlement fédéral et de l'Assemblée nationale du Québec, mais on n'a pas eu à consulter toutes les provinces. On n'a pas, par exemple, eu à donner un droit de veto, un droit de regard ou simplement la possibilité de se prononcer à des provinces qui ne sont pas concernées directement par cette modification-là. Donc, vous voyez, encore une fois, différents mécanismes institutionnels qui peuvent avoir pour effet de remplir des objectifs qui sont de nature consociative, donc apaiser les tensions, donner beaucoup d'autonomie aux groupes qui composent une société fragmentée et qui prennent forme dans une procédure de modification comme celle du Canada où, encore une fois, on n'est pas face à une démocratie qui est elle-même consociative, mais qui emprunte néanmoins à certains endroits des outils de nature consociative.
Je pense qu'on comprend mieux les subtilités, consociativisme, fédéralisme, au terme de cette discussion. Merci beaucoup, Dave, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je pense qu'on peut conclure l'émission là-dessus.
Ben, merci à vous.
C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du Balado Religio, un balado du Sodrus. Je tiens à remercier encore une fois Dave Gannett d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du Balado Religio, un balado du Sodrus.